Oui, vas-y.
Moi, ça part d'une expérience que j'avais eue dans les années 80. Je l'avais fait avec ma femme, on avait fait un petit séjour dans une communauté de l'Arche, dans un des Vascos, une communauté gadienne. Donc, c'était un lieu qui se préservait le plus possible d'Internet. Il y avait une vie écologique, biologique, tout ce que vous voulez. Et je me rappelle qu'un jour, on a arraché les patates. Et il nous disait, quand on travaille, même quand on travaille, à un moment donné, on n'est plus des machines, on arrête d'arracher les patates, on fait 6 minutes, et on fait le vide, voilà. Ça voulait dire que, même en dehors des nouvelles contraintes technologiques qu'on a aujourd'hui, cette communauté, ils avaient le sentiment que déjà l'homme avait la tendance à devenir une machine, dont la base devait être comme ça. Et ce genre de truc, moi, je pense que. Moi, j'y pense souvent, ils appelaient ça le rappel. C'est-à-dire, rappelle-toi que tu n'es pas une machine, tu es aussi un mec. Des toits de groupe. Et je pense que ce truc-là, me semble, c'est peut-être un des phares flou par rapport à. Si on peut le faire face. Parce que, en fait, c'était. Là, on avait l'impression d'un coup de temps, il fallait arracher les patates. À un moment donné, les patates, elles attendent. Je te mets debout et ce qu'il fallait que
je vois, c'est quoi.
Je
vais y aller
sur
un
versement. Je ne sais pas si ça a un lien avec ce que vous avez dit, mais.
Oui, si,
ça. Pour résumer ce qu'il vient de dire, c'est qu'on n'est plus esclave de l'objet, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus esclave de l'objet, du désir, du besoin, etc. C'est une façon de dire attention.
Oui, effectivement, il y avait une autre intervention, on va reprendre
oui.
L'intervention.
Oui, j'ai une question par rapport à ce qui m'a surpris, ce que tu disais de Anne
Arendt. Oui.
Et que le présent n'existerait pas. Pourquoi? Parce qu'on dit que bon, le passé n'existe pas, il ne peut exister que le présent. Il m'a semblé comprendre que même mettait en doute l'existence là du présent parce qu'il disait au moment où on le dit, ce n'est plus le moment. Donc c'est plus possible. Donc c'est complètement désespérant. Parce que si même la seule chose qui existait dans le présent, on ne sait plus. Voilà. Par rapport à tous les concepts bouddhistes et tout ça, le présent, comme tu disais lui, voilà, vis à le présent, arrêtez pas d'être. Voilà quoi. Ça, c'est un peu du coup.
Oui.
Comment tu vois le ressens ?
Alors, je vais prendre tout ça. Donc, Hannah Arendt, effectivement, elle pense le temps, comme Héraclite, le temps c'est un flux continu. Alors, elle, effectivement, le présent, hein, ce moment où on est là, c'est un moment impossible, puisqu'il est toujours déjà passé. Hein? C'est un espèce de non-lieu. Alors, c'est vrai que le problème du temps, le problème du temps, c'est que le passé, il n'est plus là, le futur n'est pas encore, et ce qui devrait être là, c'est-à-dire le présent, finalement, il est toujours en train de passer. Hein? Voilà, on est toujours.
Oui, mais si tu t'arrêtes, comme je le disais.
Alors, la question. Voilà, alors la question, l'exemple, il est très intéressant. Est-ce qu'il est possible de s'arrêter? Alors, peut-être qu'on peut arrêter son activité, mais pendant qu'on arrête son activité, nos cheveux continuent à croître, on perd des cellules mortes, c'est-à-dire que. Ce que nous sommes continue à se transformer dans le cours du temps. Hein? Nous sommes toujours ce qui fait quand même notre être. Et c'est pour ça que ce que je dis c'est extrêmement intéressant. Il faut savoir se souvenir qu'on est en quoi consiste notre humanité. Ce qui fait notre humanité et qui fait que nous ne sommes justement pas des dieux et que nous avons un certain nombre de problèmes, c'est que nous sommes mortels. Hein, c'est que, eh bien, nous sommes pris dans un flux temporel qui va, on va dire, de la naissance à la mort, et dans ce flux temporel, nos actions sont irréversibles. Voilà. Hein, et ça, Eh bien, c'est un donné. Nous ne pouvons pas changer le cours des choses. Alors, je peux m'arrêter de parler, je peux m'arrêter de bouger pendant une minute, si vous voulez, pour prendre mon temps, hein, mais ça n'empêchera pas le temps de s'écouler et je vieillirai quand même, je me rapprocherai un peu plus de ma mort, pas plus vite, mais je continuerai, on va dire, le cours de ma vie. Hein. Alors, c'est vrai que ce moment où l'homme va prendre son temps, c'est-à-dire va prendre le temps de se poser pour se dire « je suis un être humain et je ne suis pas une machine », c'est-à-dire « je ne suis pas subordonné à quelque chose qui n'est pas l'homme », à savoir la production de marchandises ou... eh bien, c'est le moment où l'homme, finalement, prend le temps de vivre cette expérience temporelle-là. Il ne s'arrête pas, il ne se fiche pas dans quelque chose qui serait un présent, mais tout d'un coup, il se recentre sur une expérience proprement humaine. Le problème, on va dire, de la vie quotidienne, alors après, chacun a des variations particulières, c'est-à-dire qu'ensuite, chacun développe des stratégies personnelles pour être soi-même dans l'existence, et heureusement, parce que sinon, on serait vraiment dans un monde inhumain. Mais c'est vrai que la grande tendance, parce que si on prend une grande tendance, la grande tendance, c'est d'aller quand même vers une forme de barbarie et d'inhumanité et de dépossession de nous-mêmes. Hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'individuellement, chacun de nous a des stratégies pour se poser dans la journée, pour avoir des moments où on va faire du yoga, de la peinture, être avec ses enfants, etc. Et on n'est pas tous des machines mises au service de la productivité, de la performance de son entreprise, etc. Même si nous vivons dans une société qui va construire des valeurs érigeant la performance comme étant une valeur suprême, comme étant le moyen de s'intégrer à la société. Voilà. Hein? Donc, s'arrêter, c'est pas arrêter le temps. Hein, c'est prendre le temps, c'est finalement se réapproprier l'expérience temporelle qui est constitutive de l'humanité. Et c'est ça qu'on a perdu. C'est ça qu'on a perdu parce que finalement nous vivons dans des contraintes qui sont d'abord des contraintes matérielles, qui font que nous sommes dépossédés de notre qualité de sujet, c'est-à-dire d'être auteur de nos actes, d'être responsable de nos actes. Nous vivons dans un système qui nous donne des objectifs, qui sont des objectifs inhumains. Nous devons être performants, produire, travailler de telle heure à telle heure si nous faisons les 3-8. Ça n'a rien d'humain, mais c'est l'homme qui s'adapte au rythme de la production. Donc ça, ce sont des contraintes matérielles qui vont déposséder l'homme de son expérience temporelle, de sa vie. Tout simplement du fait d'exister comme un sujet et de ne pas exister comme une chose. Le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde dominé par quelque chose qui est de plus en plus inhumain, dans le sens où ce n'est plus à l'échelle humaine, c'est un monde qui voudrait faire de l'homme un objet et non pas un sujet. Mais nous résistons, heureusement, pour être optimiste. Donc il y a des expériences comme les communautés, il y a... voilà.
Oui.
On peut prendre dans l'exemple inverse. À supposer que le passé n'existe plus. Nous sommes tous dans le temps présent. Nous sommes tous dans le monde présent. Donc, présent et omniprésent. On vit dans le présent. Le passé n'existe plus. Il n'est plus qu'une illusion.
Oui.
Parce qu'il n'y a plus de futur non plus. Parce que le futur est basé sur le passé.
Moi, je suis très critique avec cette idée de Virilio, ou bon, ses thèses, qui dirait que nous sommes maintenant figés dans un présent absolu. Que les jeunes générations sont des espèces de nouveaux barbares déconnectés de toute tradition, dans le sens où je pense que profondément l'homme a besoin de s'inscrire dans un récit originel, dans une tradition, quelle qu'elle soit. Et donc, si la tradition, elle est plus transmise par les ancêtres sous l'arbre aux palabres, la tradition, elle va quand même être transmise par le cinéma américain, Star Wars, etc. Hein? C'est-à-dire que l'homme, pour être, il a besoin de s'inscrire dans une histoire, et non seulement il a besoin de s'inscrire dans une histoire, mais c'est encore plus important, il a besoin de se raconter cette histoire de ses origines. Donc il a besoin du passé, il a besoin d'avoir une mémoire. Et autant il est très difficile d'avoir des preuves du présent, hein, ça fait penser, c'est comme l'amour, l'amour ça n'existe pas, il y a des preuves d'amour. Ben, le présent, il n'y a pas de preuves du présent, mais par contre des preuves du passé on en a. Voilà. Donc le présent, le passé on peut dire qu'il a une réalité, il a une matérialité. Le présent c'est plus difficile. Quant au futur, bon ben, le futur il n'est pas encore. Hein. Mais s'il y a bien une chose dont nous pouvons être certains, encore, enfin j'espère, c'est qu'il y a eu un passé. Voilà, dans lequel nous cherchons à nous enraciner. Alors c'est vrai qu'en même temps, hein, en même temps, et c'est ce qui pose quand même d'énormes problèmes aujourd'hui, pour penser la crise que nous traversons, qu'elle soit économique, politique, ou même ce qu'on appelle entre guillemets la crise des valeurs, c'est que les mutations de notre civilisation font que nous sommes dans des situations inédites. Hein. Si on prend par exemple la brutalité des transformations matérielles qui affectent la vie d'un Chinois aujourd'hui, qui a 10 ans vivait comme au Moyen-Âge, eh bien c'est vrai que ce Chinois-là vit une expérience que nous ne partageons pas. Enfin, il vit un rapport au temps, vit un rapport à l'espace qui n'est pas le nôtre. Et c'est vrai que son expérience du temps réel, ça n'a rien à voir avec notre expérience du temps réel.
Et son passé non plus.
Et son passé non plus. Mais en même temps, il a quand même un passé. Il s'inscrit quand même dans une histoire. Même si cette histoire n'est pas finalement construite avec les mêmes rythmes que nous.
Mais peut-être que le passé du Chinois n'est qu'un rêve pour nous.
C'était pas un rêve, c'est, je dirais, pour nous, de loin, c'est peut-être un fantasme. Voilà. Mais pour lui, c'est une réalité. Après, bon, le travail des historiens chinois est aussi valable que le nôtre. C'est-à-dire qu'après, l'histoire est une science. Donc après, les historiens font, alors, ça aussi, essayent d'avoir un rapport objectif d'interprétation, font un travail d'interprétation du passé pour essayer de restituer, justement, cette réalité du passé. Et situer le discours, le récit, au-delà des interprétations, au-delà des fantasmes, au-delà des illusions. Alors après, est-ce que l'historien parvient à restituer exactement le passé tel qu'il est ? Ça, c'est un grand débat. Mais il y a quand même, on va dire, une idée qui guide le travail de l'historien, qui est d'essayer de raconter les faits tels qu'ils ont eu lieu. Alors après, bon, il y a de grands débats sur les méthodes de l'histoire, mais il y a quand même un souci, on va dire, un souci d'objectivité et d'essayer de trouver, comme l'enquêteur de police, les preuves, les évidences, hein, au sens anglais, ce qui montre le passé. Hein, voilà. Parce que c'est vrai, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce que l'on raconte, c'est jamais ce que l'on voit. Ce que l'on raconte, c'est toujours ce que l'on imagine voir. Voilà. Hein? Et donc, le travail de la science, quelle qu'elle soit, c'est justement de se placer au-delà de ce que l'on imagine voir pour essayer de voir, enfin de voir. Voilà. Et donc, l'historien fait ça avec, justement, le passé, le temps passé. Hein? Mais s'il y a bien une certitude, c'est que, le passé, il a bien eu lieu. Quant au présent, voilà. Nous sommes là, mais en même temps, nous sommes déjà plus là à chaque instant. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes dans une illusion cartésienne, dans un grand rêve ? Peut-être. Hein. Peut-être que nous n'avons même jamais été là ce soir. Et que là, en ce moment, tous, nous sommes dans notre lit, en train de rêver, que nous assistons...
Comment nous sommes sûrs d'être là ? Mais demain, peut-être d'avoir été là n'aurait été qu'un rêve.
Oui, mais même là, à cet instant, tous, nous voulons en avoir la certitude, mais rien ne prouve que nous sommes là. Vous pouvez vous pincer, mais vous pouvez rêver pour vous pincer. Donc là, nous ne pouvons que croire que nous sommes là. Et que le temps continue à s'écouler normalement.
Marisol, oui.
La réalité, la non-réalité du présent, justement. Imagine justement de toi, qui a très mal de présent, c'est comme savoir quoi avec l'existence du présent.
Tu peux rêver, on revient à cette idée, ça peut être une illusion.
D'accord, enfin bon, c'était par rapport à ce que le présent existe ou n'existe pas. Est-ce que là, c'est forcément du présent? Tu as mal avec toi, c'est la douleur, elle est présente. C'est pas un instant de non-réalité, c'est pas le passé, c'est pas quand même, c'est quand même une réelle.
Non, mais si tu lâches, c'est vrai.
Non, mais à l'instant présent, à l'instant présent, c'est présent.
Elle répond.
Voilà, je n'ai pas de réponse.
Oui, mais est-ce que cette douleur est bien réelle? Je ne peux pas le dire. Voilà. Mais si tu veux, le temps c'est un flux. Hein. Héraclite disait c'est un fleuve hein, dans lequel les choses, dans lequel on ne se baigne jamais deux fois. Hein. Et donc il faut vraiment avoir cette idée que l'on est pris, dans ce fleuve et malgré tout, on va essayer sans arrêt, et c'est ce que font Virilio ou les gens qui essayent de penser notre rapport au contemporain comme un rapport à l'instant, à l'immédiateté, on va dire à quelque chose qui serait un éternel présent. C'est-à-dire, on peut abstraitement, on va dire là nous sommes dans le présent, mais en même temps, par rapport à notre expérience. Hein, le présent, ce n'est toujours qu'une abstraction. Ce n'est toujours que quelque chose de purement artificiel, arbitraire. Hein. À quel moment tu peux dire que ta douleur commence dans le présent et qu'elle cesse dans le présent? Tu peux pas. C'est-à-dire à quel moment, dans ton sentiment de douleur, il y aura le souvenir aussi de la douleur qui a été. Tu comprends?
C'est... Mais en même temps, si je la ressens dans le présent, j'ai pas besoin de savoir à quel moment elle a commencé.
Oui, mais le problème, si tu veux... Non, mais le problème, c'est ce qu'on disait par rapport, si tu veux, au décalage. Mais c'est intéressant, par rapport au décalage entre notre expérience, on va dire, du temps, le fait que nous ayons l'impression que le temps, non seulement nous n'avons pas de temps, nous n'avons plus le temps, que le temps va, et l'espace vont se rétrécir, hein, et donc... on va dire les théories de l'espace-temps de la physique, hein, donc les théories abstraites, qui scientifiques, objectives, qui disent vraiment ce qu'est l'espace-temps. Ce sont des conceptions qui sont complètement antinomiques. Un physicien va te dire, qu'il n'y a pas du tout ni d'accélération ni de ralentissement du temps, que l'espace ne se resserre pas, au contraire, qu'il y a une expansion. Mais ça, c'est quelque chose dont tu ne fais pas l'expérience. Mais qui est plus réel, qui est plus vrai, qui est plus réel que l'expérience que tu peux faire. Et c'est vrai qu'en philosophie, on aura tendance, je dis bien on aura tendance, à critiquer les connaissances, les opinions qui vont être fondées uniquement sur l'expérience. Parce qu'on va dire que l'expérience, elle est toujours subjective. L'expérience, elle va toujours dire ce que tu es toi, mais elle ne dira jamais quel est exactement l'objet de ton expérience. Elle va dire comment toi tu fais cette expérience. Donc elle va dire comment toi tu expérimentes le temps. Alors c'est vrai que si tu t'ennuies ce soir, le temps va te paraître très très long. Mais si tu trouves le débat intéressant, la soirée va te paraître très très courte. Hein? Donc tu vas faire une expérience du temps, mais dire exactement ce qu'est la soirée, sur la base de ton impression sensible, de ta perception, tu ne diras rien. Voilà. Hein? Alors, ça ne dévalorise pas ton expérience personnelle. Hein? Mais c'est juste ce que dit la philosophie et la science, c'est elles mettent le doigt sur le décalage entre nos représentations, nos idées, et finalement ce que pourrait être le monde dans sa réalité. Je dis bien ce que pourrait être le monde dans sa réalité, parce que, comme je l'ai dit, finalement, ce qu'est le monde dans sa réalité, nous ne pouvons pas y avoir accès en dehors de notre expérience. Donc, nous ne pouvons que reconstruire sans arrêt, abstraitement, en essayant de lever les filtres de la perception sensible, mais c'est toujours une reconstruction rationnelle, et on ne peut qu'espérer que cette reconstruction rationnelle de la science qui nous raconte, par exemple, ce qu'est le temps, soit corresponde à ce qu'est véritablement le temps. Et comme tout à l'heure, on disait que nous ne pouvons qu'espérer et croire que nous sommes bien là ce soir, finalement, nous ne pouvons qu'espérer et croire que, les résultats scientifiques, les théories scientifiques sur lesquelles, actuellement, on a établi un consensus, eh bien, disent ce qui est. Mais nous ne pouvons pas en être absolument sûrs. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'on ressent quelque chose que ça existe. Voilà. Hein? Donc, on a le sentiment de vivre au présent et on peut espérer, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye de faire quand on a des expériences où tout d'un coup, on va ou même faire du yoga, ou toutes ces expériences spirituelles héritées, on va dire, de l'Inde, c'est aussi bon, une volonté voilà, de rendre actuelle l'expérience du temps. Mais après...
Bon. Isa, et après...
Par rapport au fait qu'on aurait l'impression de manquer de temps du fait d'une avalanche de désirs, de besoins à satisfaire, moi je me demande quand même, je me dis que les gens du Moyen-Âge qui devaient bosser 18 heures par jour pour avoir dans le meilleur des cas qui n'ont pas, ils devaient aussi trouver qu'ils manquaient de temps. Le temps pour aller avoir assez souvent pour avoir froid, etc. Ça ne devait pas être les mêmes besoins. Les mêmes. Je sais pas, j'ai du mal à me dire qu'ils n'avaient pas la notion de ce manque de temps, comme on peut l'avoir.
Là, bon, je t'avoue, je ne suis pas une spécialiste de l'époque médiévale, mais j'aurais tendance à penser, par rapport à l'exposé que j'ai fait tout à l'heure, ce que j'ai dit, finalement, ce qui nous contraignait, on avait l'impression que c'était le temps qui nous contraignait. Or, ce qui nous contraint en premier lieu, c'est la nécessité matérielle, et c'est ce que tu viens d'exprimer en disant finalement... au Moyen-Âge, il n'y avait pas de lave-linge, pas de lave-vaisselle, on devait couper son bois, etc. Donc, on était dans une nécessité matérielle extrêmement contraignante qui faisait que peut-être on manquait de temps. Mais là, à nouveau, on voit que le problème qui se pose, c'est pas le temps, c'est finalement le fait qu'on soit soumis à une nécessité matérielle qui est celle de satisfaire les besoins, nos besoins pour survivre. Bon. Là, le problème dans nos sociétés, c'est que nous devons faire face individuellement à des impératifs qui vont s'imposer à nous. Hein, par exemple, ce qui n'existait pas au Moyen-Âge, c'est l'impératif d'avoir une activité salariée. Hein, bon, au Moyen-Âge, on pouvait... Je ne dis pas que c'était mieux ou moins bien. Hein, je dis, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Nous sommes pris dans une organisation sociale qui va nous contraindre, qui va nous fixer des objectifs qui ne sont pas des objectifs qui prennent en compte nos besoins. Ces objectifs, les objectifs du système économique, ils sont très simples. Hein. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, hein, bon, là, bon, je prends l'analyse de Marx, mais parce qu'elle est extrêmement pertinente, nous ne produisons plus des biens, des marchandises pour satisfaire nos besoins, nous produisons des biens pour les échanger, ce qui n'a rien à voir. Hein. Et donc le but, c'est pas de satisfaire les besoins de l'humanité, c'est de produire toujours plus de marchandises pour développer toujours plus d'échanges et produire toujours plus d'argent. Donc cette logique de produire toujours plus de biens pour finalement produire toujours plus d'argent, c'est quelque chose dans lequel nous nous trouvons intégrés malgré nous. C'est-à-dire que même si nous ne voulons pas participer à ce système-là, collectivement, hein, alors évidemment, certains auront la chance de pouvoir faire partie de collectivités, de communautés autogérées, etc. Mais bon, moi, je me place, on va dire, par exemple, à l'échelle de la France, de l'Europe, ou même du monde. Malgré nous, nous sommes quand même obligés, eh bien, d'avoir une activité salariée pour avoir une carte d'assuré social, pour voilà, hein, pour avoir ce qu'on appelle un statut, c'est-à-dire une place dans la société. Hein. Et ça, ce sont des impératifs qui font que, eh bien, notre rythme de vie, hein, doit s'adapter à quelque chose qui n'a rien à voir avec des impératifs humains. Là, par exemple, je prenais l'exemple des 3-8. Bon ben, l'horloge biologique de l'homme n'est pas faite pour travailler en permanence à des rythmes qui sont découpés en fonction des besoins de l'appareil productif. Hein. Voilà, ça c'est des choses qui s'imposent à nous et c'est vrai que la multiplication, enfin l'exigence de productivité, de performance du système. Hein, eh bien, c'est quelque chose que nous subissons, plus ou moins, mais que nous subissons quand même. Voilà.
Et l'homme a-t-il à un moment ou à un autre alors été en adéquation avec son horloge biologique? Jamais.
Oh, je pense pas. Je pense que quand même, il y a quand même des les ethnologues.
Comme on parlait tout à l'heure du Moyen Âge, ils subissaient le. C'était pas bon.
On peut. Non, il y a quand même des sociétés humaines qui ont vécu et qui. Bon, pour certaines, il reste encore des sociétés protégées, c'est-à-dire pas encore touchées par la globalisation. C'est très très rare, mais on essaye. Par exemple, en Amazonie, on sait qu'il y a des populations. On essaye de ne pas aller les voir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y a quand même des populations humaines qui ont vécu dans un certain équilibre avec la nature, dans un certain respect, on va dire, voilà. Aussi des besoins de l'homme.
D'accord.
Mais bon, c'est un modèle. Je ne suis pas sûre que ça nous conviendrait.
Voilà, il y a aussi le contrepartie.
Voilà, c'est pas sûr que nous.
On vit peut-être maintenant jusqu'à 70 ans. Je ne pense pas qu'ils vivent jusqu'à 70 ans.
Je t'avoue que je n'en sais rien.
Voilà, non, je ne cherche pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, il y a toujours des contraintes.
Moi, je ne comprends pas pourquoi, quand tu dis c'est humain ou pas humain. Moi, il me semble que justement, ce qui se passe, c'est humain, c'est l'humanité.
Oui. Si tu veux. Le capitalisme, c'est une production de l'humanité, mais alors le paradoxe, c'est que c'est de l'inhumanité produite par l'humanité. C'est-à-dire que...
Pourquoi justement l'inhumanité? Ça veut dire quoi, ça?
L'inhumanité, c'est la négation, c'est-à-dire l'homme, la particularité de l'homme, c'est qu'il est capable de produire aussi la barbarie. La négation du respect.
Pourquoi la barbarie n'est pas humaine?
Elle est produite.
Par l'humain, donc voilà, elle est humaine.
C'est une production de l'homme, mais en
c'est
même
humain.
Temps, si tu veux,
c'est humain.
Oui, mais si tu veux, nous, ce que l'on place dans l'humanité aussi, c'est une valeur morale.
Oui, mais voilà. Là, c'est la civilisation aussi qui amène l'humain à ne pas être barbare.
C'est aussi la civilisation qui amène la barbarie. On est dans cette phase
de quelle civilisation?
Oui, moi ça va dire un mot. Les 3-8, ça date pas de la mondialisation. Est-ce qu'on me souvenir qu'il y a un siècle, un peu plus, moi je vivais pas, c'est un souvenir direct, on travaillait 70 heures en France. Donc, moi, je sens très très mal les explications sur cette souffrance qu'on a par rapport au temps que l'on n'a pas, à cause de la mondialisation. Je pense qu'il y a une partie des gens qui ont du travail, qui sont soumis à une pression démente. On a vu les gens à France Télécom il y a quelque temps, qui, là, il y a effectivement des systèmes de destruction des personnes pour des questions de rentabilité. Mais en France, on a 5 millions de gens qui n'ont pas de travail, qui en cherchent. Et il faudrait s'attacher à regarder les cas, les gens. Et moi, une chose qui me frappe, c'est cette difficulté que l'on a. J'ai l'impression qu'on est passé d'une société de consommation de biens, la bouffe, les objets, à une société de consommation des virtuels. Et les enseignants disent tous que les enfants, ils font leur attention, ils la portent 5 minutes. Après, il faut passer à autre chose. Nous, on a accueilli un certain temps un enfant. On lui propose une activité. Au bout d'une minute, et qu'est-ce qu'on fera après? C'est-à-dire une sorte d'incapacité à prendre le temps des choses. Et ça, je pense que c'est peut-être l'origine, c'est peut-être la mondialisation, mais je ne vois pas très bien les détours. Et je pense qu'on est dans une société où on ne sait pas prendre le temps des choses. Il y a un truc, ben, je ne voudrais pas parler de poujadiste, mais nous, mon épouse, on se fait à manger en général, on ne prend pas beaucoup de temps, mais on essaie de soigner ça. Et on entend, ah non, on n'a pas le temps. De se faire à manger, et on achète du bio, c'est vrai, en Aveyron, on a la chance du bio, du tout fait, on achète des plats cuisinés.
Des lasagnes.
Non, ici, c'est génial. Mais, voilà, on n'a pas le temps. Et par ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, on entend que le Français regarde la télévision pendant 3h30 par jour. Alors, Moi, je ne sais pas une critique ni un côté. Comment dire, mais c'est une question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le temps? Prendre le temps des choses. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on parle d'être concret. Alors, la philosophie, peut-être, doit aller à des concepts, bien sûr. Mais les réalités concrètes. Il y a 5 millions de gens qui n'ont pas de travail. Ils sont angoissés par le temps. Comment ça se fait?
Je veux bien répondre. Je n'ai pas dit que la mondialisation avait inventé les 3-8. Bon, on va dire, dans le raccourci que j'ai fait de l'histoire de la technique, la révolution industrielle est un moment, on va dire, majeur de ce développement, on va dire, des forces productives et de l'intensification des rythmes de travail. Hein. Bon, moi, je suis allée très, très vite. Alors, pour revenir à la question du numérique, du rapport des enfants, justement, aux écrans, et au fait que peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient développé des incapacités. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, il y a Michel Serres qui a écrit un petit livre qui s'appelle « La petite poussette » là-dessus, sur « Y a-t-il effectivement, maintenant, nos enfants seraient-ils des handicapés à cause des écrans ?» Bernard Stiegler aussi, qui est un philosophe français, a aussi beaucoup travaillé la question. Et ce que dit Michel, alors Bernard Stiegler met en garde justement contre le danger de la télévision, contre cette nouvelle forme d'aliénation de l'individu que seraient les écrans. Ce que dit Michel Serres, très simplement, il dit peut-être qu'il ne faut pas diaboliser les nouvelles générations, diaboliser les écrans. Alors, il explique qu'il a appelé son livre « Petite poussette ». Pourquoi ? Parce qu'un jour, il était dans le métro à Paris et il a vu une jeune fille en train d'envoyer un texto sur son téléphone. Et elle avait une dextérité au niveau des pouces qui l'a amené à penser que cette jeune fille, bon, peut-être qu'elle était nulle, peut-être que le langage texto avait pour conséquence que son orthographe était catastrophique, mais en même temps, elle avait, du fait de cet apprentissage de l'objet du iPod, enfin, je sais pas, elle avait développé une capacité nouvelle. Hein. Et donc, ce que dit Michel Serres, c'est qu'aujourd'hui, la révolution numérique, et donc la révolution de l'information, révolutionne non seulement, comme tu le disais, le rapport au savoir, alors qui fait que peut-être les enseignants déplorent l'inculture de leurs élèves ou leur capacité à zapper très vite, mais en même temps, il dit, cette révolution civilisationnelle transforme en profondeur le sujet du savoir. C'est-à-dire que le sujet connaissant, aujourd'hui, développe des capacités nouvelles que n'avait pas le sujet d'avant la révolution numérique. Hein? Donc, à nous de voir maintenant quelles sont ces nouvelles capacités. Alors, bien sûr, les enfants ne connaissent plus des poésies, des dizaines de poésies par cœur. Mais ils savent où chercher les poésies. Hein? Ils savent utiliser des moteurs de recherche, etc. Donc, ils vont développer, c'est-à-dire que ce que dit Michel Serres, c'est qu'au lieu d'occuper une grosse partie de leur cerveau à mémoriser des données, ils vont développer une agilité qui va leur permettre de trouver les données dans des gigantesques bibliothèques numériques, mondiales, etc., sur l'ensemble de la planète. Donc, effectivement, il y a une mutation du sujet. Alors, est-ce qu'il y a une perte? Est-ce qu'il y a un gain? Je ne vais pas me prononcer, mais il y a effectivement des choses qui nous interrogent. Hein? Alors, on peut dire, oui, il y a danger, c'est ce que certains disent. Hein. Ils disent, Internet rend les jeunes complètement débiles, Facebook, c'est un danger pour la vie sociale, etc. Hein, bah, les avis sont partagés, ça débat autour de ce nouvel objet, hein, qui est le numérique. Mais parce que c'est aussi, alors, c'est notre présent.
Hein. Est-ce que c'est pas comme toute la vie, c'est-à-dire que c'est un savant équilibre qu'il faut obtenir, c'est tout.
Voilà. C'est ce qu'il faudrait obtenir, un savant équilibre. Voilà. Le problème, c'est qu'on est quand même...
La bière, c'est voilà. Bien, mais il ne faut pas en boire de trop, il faut juste boire ce qu'il faut.
S'il n'y a plus de mémorisation, il n'y aura pas autant, c'est bien.
Alors, attention, je ne sais pas...
La question, vous avez entendu la question?
Non, on disait qu'avec l'Internet... l'info avec plus vite, etc., où ils vont être capables d'aller chercher l'info, en fait, ils mémorisent moins. Ils ont moins d'habitude de mémorisation. Donc, si on perd la mémorisation, quel va devenir le rapport au temps ?
Ils ne mémorisent pas de la même façon. C'est-à-dire que, là, je regardais, par exemple, récemment, le film de Truffaut, Fahrenheit 451, vous connaissez, c'est où on voit à la fin du film les hommes bibliothèques. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une société totalitaire qui interdit les livres. Hein, pourquoi ? Parce que la littérature, finalement, rend les gens malheureux. Hein, donc, vaut mieux, pour que tout le monde soit heureux et qu'il y ait un consensus politique, une paix sociale gérable, on fait en sorte que les gens ne lisent plus ou lisent des choses qui sont expurgées de tout contenu. Bon, donc il y a les pompiers ont été transformés, les pompiers ne protègent plus les hommes des incendies, mais déclenchent eux-mêmes des incendies puisqu'ils vont brûler les livres. Et donc, il y a des résistants, des rebelles, qui vont vivre en marge de la société et vont essayer de sauver le patrimoine de l'humanité, de sauver les livres. Et pour sauver les livres, ils vont les apprendre par cœur. Et donc, à la fin du film, ou à la fin du roman, mais à la fin du film de Truffaut, on voit ces hommes et ces femmes, ces résistants, dont l'unique activité est de mémoriser un livre. Chacun est un livre vivant. Hein. Et donc, moi, ce que je me disais, c'est, bon, après avoir lu Stiegler et Michel Serres, c'est que j'avais envie de les interroger, puisque bon, eux, c'est les grands philosophes, c'est leur métier, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Hein. Pour, effectivement, il y a eu, bon, quand j'étais jeune, j'ai lu Fahrenheit 451, je trouvais ça fantastique, ces hommes livres. Là, effectivement, aujourd'hui, je me dis, mais quel temps perdu ! Quel temps perdu ! Quel ennui de passer son temps à réciter un seul livre. Hein. Effectivement, alors, ça ne veut pas dire que tous ces livres, on les oublie, les jeunes n'y ont plus accès. Tous ces contenus, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas stockés, mémorisés quelque part. Hein. Mais les jeunes, maintenant, ont développé des stratégies cognitives qui vont faire qu'ils auront peut-être accès à plus d'informations, plus de livres, plus de contenus, et qu'ils ont, je dis bien, la possibilité. Voilà. Ils ont la possibilité d'un plus grand enrichissement. Voilà. Hein. Après, le problème, c'est dans notre système où on vend l'information, où on est dans un système, comme dirait Chomsky, où la démocratie utilise la manipulation de l'opinion publique pour maintenir au pouvoir un certain nombre d'élites, qu'est-ce qu'on fait de cette richesse potentielle culturelle de la population ? Voilà. Hein. Donc, il y a une possibilité. Après, qu'est-ce que collectivement nous faisons de cette possibilité ? Est-ce que nous nous donnons les moyens, est-ce que nous donnons les moyens aux jeunes de développer cette possibilité ? Ou est-ce que collectivement, finalement, nous faisons en sorte d'alimenter ce moyen coercitif qui fait que, eh bien, on maintient un consensus dans la population et, voilà, bon, il y a la possibilité, mais c'est vrai que je pense pas que, mais le débat existe, hein. Je pense pas que le développement du numérique appauvrisse l'humanité au niveau des contenus, je ne pense pas, voilà. Il y a une possibilité d'appauvrissement dans le sens où, effectivement, si un jeune est sur des jeux vidéo toute la journée, effectivement, son univers va être extrêmement limité, voilà, mais... C'est à nous, c'est-à-dire c'est aussi la tradition, le rapport des générations entre elles, c'est à nous de transmettre des savoirs, des connaissances, et je pense aussi de transmettre, par exemple, tu parlais de la cuisine, c'est-à-dire les gens, vont acheter des plats, je pense aux lasagnes, mais ils vont acheter des plats tout prêts, mais c'est pas qu'ils n'ont pas le temps de faire la cuisine, c'est que faire la cuisine n'a plus de sens. Voilà, le problème c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on transmet du sens de l'existence. Parce que le sens de l'existence, ça tombe pas comme ça. Hein. Il y a aussi quelque chose que nous transmettons d'une génération à l'autre. Sur le fait bon, d'apprendre à vivre, de prendre son temps, de s'inscrire dans une histoire. Voilà, donc on fait plus la cuisine parce que ça n'a pas de sens de faire la cuisine. C'est, voilà, on va acheter une barquette toute prête.
C'est long de faire la cuisine. Voilà.
Mais oui, mais justement, c'est pas mal. C'est non, un exercice.
Justement, on n'a plus de temps. Donc, automatiquement, on ne prend plus le temps de faire la cuisine. Par contre, on a de super cuisines encastrées, machin et tout, mais on les salue pas. Il faut faire le ménage après avoir fait la cuisine. Ça prend du temps aussi.
Est-ce que l'histoire de la cuisine, c'est pas un rapport justement à la matière par rapport au virtuel? C'est quand on fait la cuisine, on est créé de la nature, de la matière, et c'est quelque chose que les jeunes générations peut-être ont tendance à oublier, étant un peu plongé dans le virtuel. Mais ceci dit, moi je pense que les médias, c'est une très bonne chose pour la démocratisation du savoir, dans la mesure où il y a une éducation aux médias. S'il n'y a pas d'éducation aux médias, c'est la catastrophe.
Je pense, il y a un psychiatre, il y a Serge Tisson, qui a beaucoup travaillé sur le rapport des jeunes, sur l'influence des réseaux sociaux, l'influence d'Internet sur les adolescents, et il a beaucoup travaillé sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux, sur la question du rapport amoureux. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes ne se rencontrent plus comme ça dans la rue. Ils vont beaucoup se rencontrer, alors moi j'étais très surprise, aussi sur Facebook, avoir des amis Facebook et des amoureux Facebook. Ils vont déclarer sur Facebook qu'ils sont en couple, qu'ils sont amoureux. Donc ils vont faire le récit public de leur intimité sur Facebook, etc. Et donc c'est vrai que le discours ambiant disait... Eh bien, Facebook, bon, ces réseaux sociaux, ces sites de rencontres, puisque même les jeunes sont sur des sites de rencontres, dénaturent l'amour. Et ce que démontre, alors je vous renvoie aux travaux de Tisseron, mais ce que démontre Tisseron, c'est que aujourd'hui les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, ne sont pas du tout complètement dénaturés par rapport aux sentiments amoureux, et donc je pensais aussi par rapport à la cuisine et au fait de se faire la cuisine, mais au contraire, contre ces formes marchandes de l'amour, eh bien, il démontre, en étudiant des populations de jeunes, que les jeunes, aujourd'hui, vont réinventer la tendresse, l'affection, le romantisme, etc. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors qu'ils sont, on va dire, la proie offerte des publicités à contenu ouvertement sexuel, eh bien, ils réinventent l'intimité. Voilà, hein. Ça va à l'encontre, on va dire, de nos préjugés. Ce qui est plutôt salutaire, encourageant pour l'avenir.
Tout à l'heure, tu as lié le temps et la mort. Et moi, je me demande si il n'y a pas, pour ceux qui zappent sans arrêt dans leur journée, dans leur vie, et qui n'ont pas le temps, parce qu'ils zappent, parce qu'ils n'ont jamais le temps, il n'y a pas justement... une crainte par rapport à cette échéance qui nous attend tous, et on est dans une société où la mort c'est quelque chose d'opaque, qui n'est pas intégré à notre conception de la vie, il me semble. Et est-ce qu'il n'y a pas donc une sorte de fuite par rapport au temps justement, qui nous amènera tous à une échéance?
Moi je pense aussi qu'on passe notre temps imaginer le futur. Et tristement, la fin du monde, les centrales nucléaires, la malbouffe, tout ça, et ça nous projette dans une angoisse et qui nous empêche de profiter du moment présent, évidemment. Est-ce qu'on imagine le futur, comment il va arriver, comment on va pouvoir vivre avec tout ça? Donc, le monde est angoissant, quand même.
Ouais,
ça rejoint ce que dit monsieur.
Alors, effectivement,
c'est la mort qui est
angoissante.
Voilà. Donc là, les deux interventions elles sont extrêmement intéressantes parce que, comme je disais dans mon exposé, notre problème, c'est pas le temps, c'est l'échéance. Et notre société vit selon l'impératif dans lequel il faut que nous soyons absolument jeunes et immortels. Hein? Alors, c'est une façon de nier, mais en même temps d'affirmer cette échéance qui, de toute façon, nous attend tous. On a beau, dans notre société, ne refuser l'idée de la maladie, de la mort. De toute façon, ça, c'est la condition humaine. Hein? Quoi qu'on fasse, on peut développer la chirurgie esthétique, on peut développer le coaching, faire du sport, prendre des anabolisants. De toute façon, pour l'instant, la médecine, la biologie n'ont pas réussi à faire que nous soyons immortels. Donc nous vivons avec cette échéance qui est celle de notre mort inévitable. Hein? Donc nous avons beau la refuser, mais notre rapport au temps, le fait que nous n'ayons pas le temps, c'est ça. C'est le fait que nous refusions cette idée de l'échéance. L'idée de l'échéance, nous pouvons refuser de la penser, elle est quand même là. Alors, dans notre société, cette échéance, elle est d'autant plus présente, comme je disais, que soudainement, collectivement, non seulement notre mort est inéluctable, mais aujourd'hui, la fin de l'humanité est devenue inéluctable. C'est pour ça que dans l'imaginaire collectif, l'histoire des lasagnes, l'histoire, on va dire, que la nourriture puisse nous empoisonner et nous faire mourir, l'histoire que la médecine, au lieu de nous soigner, nous empoisonne, l'histoire que l'atome, au lieu de nous chauffer, nous éclairer, nous atomise, etc., c'est quelque chose qui traduit une angoisse bien réelle, qui est celle de la mort qu'on vit. C'est une angoisse... Je dis pas que, c'est quelque chose de parfaitement sain. Hein, bon, alors c'est vrai que la philosophie, pour la philosophie, c'est un grand terme. Hein, Platon disait, philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais faut pas le prendre dans un sens, on va dire négatif. La condition humaine, c'est ça. Nous ne pouvons pas aller contre. Il faut vivre avec.
Nos chercheurs passent leur temps à nous prolonger la vie.
Et voilà.
Je ne sais pas comment on va devenir, jusqu'à 200 ans.
Jusqu'à 200 ans,
ils vont nous changer des cellules, des cerveaux, des cœurs.
Léna, Léna, vas-y. Oui.
Justement, sur la longévité ou la immortalité, il y a l'idée d'un écrivain britannique qui fait des science-fiction un peu délirant. Il dit, imaginons une société où on peut racheter des années de travail pour acheter des années avec lesquelles tu peux prolonger ta vie. Et il développe l'idée que il n'y a pas de gens qui vivent beaucoup plus long que 350 ans parce que les premières 100 ans, ils sont vachement prudents avec leur vie parce qu'ils veulent vivre longtemps. Et mais bon, après 200 ans, on a déjà tout fait. Alors, ils deviennent de plus en plus courageux ou fous avec ce qu'ils font. Et autour de 300, 350 ans, ils font quelque chose qui mènera de toute façon à leur mort. Pour avoir une expérience qu'ils n'ont pas eue jusque maintenant. Ils vont faire quelque chose de tellement fou qu'ils vont en mourir. Aujourd'hui, c'est l'envers. On est fou quand on est jeune et plus tard, on devient de plus en plus prudent. Et dans une société où on vit longtemps, presque immortel, ce sera le contraire. Je trouve que c'est cette idée.
Oui, mais c'est exactement ça, ce qui donne du sens à notre vie, c'est cette échéance. C'est-à-dire, ce qui rend passionnante la vie humaine, c'est le fait justement qu'il y ait une échéance qui soit la mort. Alors, c'est vrai que lorsque nous sommes dépossédés de nos vies, lorsque nous n'avons plus le temps, finalement, le sens que nous perdons, c'est le sens de la vie humaine. Ce qui donne de l'intérêt aux actions humaines, c'est qu'elles sont prises dans cette temporalité. Si nous étions immortels, si nous pouvions refaire à l'infini les mêmes choses, la vie n'aurait aucun intérêt. Je vous le dis très bien. Hein, c'est-à-dire qu'on s'ennuierait à mourir. Et au bout d'un moment... Voilà.
Justement, qu'on parle un peu plus de cette... Tu as parlé de... On est dépossédé de notre vie, de notre temps, par des contraintes. Il faut aller bosser, machin, truc. Et j'aimerais bien qu'on parle des stratégies de résistance.
Voilà, aussi.
Ah, c'est pas qu'on est dépossédé, c'est qu'on se laisse déposséder.
Comme tu veux.
Voilà, oui. C'est très bien ça. C'est, en fait, c'est que par rapport à notre mort, qui est donc inéluctable, nous avons un certain temps qui est assez arbitraire, indéterminé, mais en fait, on a quand même une petite idée. Et on est, avec justement les nouvelles informations, la communication qui nous submerge, on s'aperçoit qu'on sait de moins en moins de choses. Et je crois que ce dont on a peur, je crois que c'est mon cas, c'est d'arriver à la mort sans avoir eu le temps d'avoir vécu toute l'expérience. Que je, parce qu'avec toutes ces informations, j'ai plein de choses à faire. J'en ai beaucoup, énormément. Plus avant que j'en ai, plus j'en ai, plus j'en ai. Il y a plein de choses sur Internet que je n'aurai jamais le temps de voir. Quand je cherche, j'en ai plus vite. Et donc, en fait, c'est pas le temps qui raccourcit, c'est que je me fixe beaucoup plus d'objectifs en dehors du travail, etc., etc. C'est que je vois pas du tout comment je pourrais faire dans une vie pour te connaître, ce que j'imagine. Et là, ça m'angoisse. Quelque part, ça m'angoisse. Il faut prendre du recul par rapport à cette angoisse. Et se dire, de toute façon, je connaîtrai partout. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Quel temps je me donne pour me dégager de cette folie, en quelque sorte, de cette peur?
Alors, moi, j'aurais tendance, pour vous répondre à tous les deux, à dire, quand tu as dit, il paraît que la mort est inéluctable, ça, c'était très intéressant, parce que finalement, Épicure disait la même chose. Épicure dit, la mort n'est rien, parce que de toute façon, quand tu es vivant, tu n'es pas mort, et quand tu es mort, tu n'es plus là pour constater. Donc, tu n'as pas de souci à avoir relativement à la mort. La mort n'est donc rien. Voilà, tu ne peux être que vivant. Tu ne peux être que vivant, mais même, non, il n'y a pas de passage.
Et c'est
soit vivant, soit mort. Ensuite, je ne pense pas que notre expérience s'appauvrisse, au contraire, je pense qu'elle s'enrichit, hein, mais c'est vrai que relativement à la quantité d'informations, alors je dis bien d'informations et pas de connaissances, hein, l'information, c'est la donnée brute. La connaissance, c'est ce que l'homme est capable d'assimiler, de s'approprier, de construire, de mettre en cohérence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, relativement à la quantité d'informations, de données brutes qui sont produites et qui sont accessibles, potentiellement accessibles, bon, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que notre savoir diminue. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, ben, tu l'as dit, grâce à Internet, tu peux espérer aller au Népal, tu peux même te projeter sur le sommet de l'Himalaya et être au sommet de l'Himalaya. Tu as accès à une infinité d'expériences, de récits, d'histoires qui font que ta vie est infiniment plus riche. Voilà. Mais bon, je te rassure, tu n'auras aucun regret quand tu seras mort.
Merci.
Oui.
Je me demande aussi, depuis pas mal de temps, il y a pas une idée, des choses qu'on pense, c'est que de plus en plus, le boulot, c'est un endroit qui change. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est le week-end et les vacances, et le reste du temps, c'est la galère. Je grossis les choses, mais ce qui veut dire que les trois quarts du temps qu'on passe, c'est un temps... moi, je crois que ce genre de truc, ça nous déracine du temps. Et que le fait de considérer que le boulot, c'est un passage obligé, mais si vous pouvez s'en passer, c'est beaucoup mieux. Je pense que là, toutes les villes, elles s'entravent à cette pensée-là. Et qu'on se désapproprie de sa vie, puisque ça nous prend trois quarts du temps, quand même, le boulot. Et que de considérer le boulot comme un truc de longue vie, entre guillemets, je crois que ça, c'est un gros poison.
Je suis d'accord. Voilà.
Moi, c'est mon point de vue. Hein.
Moi, je ne verrais pas les choses comme toi. Je dirais, il y a eu un moment où on vivait dans l'idéologie, et on le vit toujours, hein, que pour avoir sa place dans la société, il fallait travailler. C'est-à-dire qu'on vivait, on a eu un président qui nous a érigé la valeur travail comme centre de notre existence.
C'est pour ce
fondé que je parle. Oui, mais alors, l'individu qui a conscience que le travail, ce n'est pas la vie. Hein, là, cet individu-là, il a la chance de pouvoir envisager une vie qui soit vraiment la sienne, dont il soit vraiment l'auteur. Parce que je l'ai dit, le travail salarié, c'est une organisation sociale, hein, qui est au service, non pas des besoins de l'homme, mais qui est au service de l'accumulation de l'argent. Hein, le travail au service de l'homme, c'est pas un travail où les hommes ont besoin de produire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non, c'est pas ça. Là, notre organisation du travail, elle n'a pas pour objectif la satisfaction des besoins de l'humanité. Bon, mais tous, nous sommes pris là-dedans. À des échelles différentes, mais nous sommes pris là-dedans. Donc pendant très longtemps, on a érigé le travail comme étant finalement un lieu de socialisation, un lieu d'épanouissement, un lieu de réalisation de soi. Hein. Et c'est passé aussi, donc le moment où le travail est devenu quelque chose de central, je pense que c'est lié aussi au fait que les femmes, pour s'émanciper, accèdent aussi au statut de salarié. Bon, malheureusement et peut-être heureusement, on est en train de déchanter avec aujourd'hui tout le travail des psychologues, des sociologues, dont Ehrenberg, sur la question de la souffrance au travail. Hein, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait débat dans l'opinion publique. Hein, avant, personne, on n'aurait jamais, c'était honteux de se suicider à cause du travail. Hein. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est posé clairement. Hein, on peut mourir au travail, le travail tue. Hein, c'est plus quelque chose qui épanouit, c'est quelque chose qui tue. Donc là, quand même, collectivement, on est en train de se dire, il faut mettre des garde-fous. Ça peut plus durer. Il faut changer les choses. Hein. Alors bon, pour l'instant, on est juste au niveau de la prise de conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train quand même de décentrer, on va dire, notre identité, de décentrer les fondations qui assoient notre identité. Bon, alors évidemment, si on n'a pas de travail, aujourd'hui, c'est encore une catastrophe. Hein, si on n'a pas de travail, c'est pire que d'avoir un travail et de souffrir au travail. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'érige plus le travail comme étant la valeur. Maintenant, il y a d'autres valeurs qui vont concurrencer le travail. Mais je pense que l'individu qui se dit « ma vie, c'est pas le travail », j'aurais tendance à dire que celui-là, il est sur la bonne voie. L'individu qui va se dire « ma vie, c'est le travail », pour celui-là, je me fais beaucoup de soucis. Alors évidemment, si c'est un peintre, un sculpteur ou quelqu'un qui a un travail, voilà.
Je pense que tout à l'heure, on avait soulevé un problème, c'était les groupes de résistance. Oui. Est-ce que ça se construit? C'était bien ça. Comment constituer un groupe de résistance à ce remplissage du temps immuable?
Moi, j'ai une solution.
Allez, Zila.
Oui.
On pourrait commencer à construire un monde meilleur et on serait mieux dans notre peau.
Bon. Autre solution.
J'ai pas de solution, hein, j'ose pas. J'ai une stratégie personnelle comme tout le monde, mais j'ai pas de solution collective.
Oui, Léna, et après.
Dans le film qu'on a vu au jeudi en question, dernière fois, il y avait Paul Ariès qui a dit une chose qui m'a travaillé depuis. Moi, j'avais l'habitude de mettre l'action individuelle contre une action politique. Et tous les deux ne sont pas très satisfaisants. L'action individuelle, ça ne va pas très loin. Et l'action politique, ça dure tellement longtemps, ça ne va pas très loin non plus. Et lui, il parlait d'une intermédiaire, c'est le collectif. De faire quelque chose avec d'autres gens qui peut avoir un résultat dans un laps de temps réel. C'est pas en 10 ans, avec d'autres gens dans une action collective, on peut créer quelque chose qui est différent. Et c'est plus que c'était la décroissance que de ne pas acheter des choses inutiles individuellement. Ça peut aller beaucoup plus loin. Et pour moi, c'est aussi le cadre de la production.
Ce que j'ai du mal à voir, ce serait la différence entre l'action collective et l'action politique. C'est-à-dire, moi, j'aurais tendance à penser qu'à partir du moment où on essaye de construire quelque chose ensemble, et pour construire ce quelque chose ensemble, on met en place un espace de dialogue, parce qu'il faut obligatoirement dialoguer, se mettre d'accord, se donner des objectifs et des moyens.
il me semble qu'on est, à partir de ce moment-là, dans l'action politique, même si nos objectifs sont de très court terme. Hein, c'est-à-dire, par exemple, construire dans une ville un jardin. Hein, c'est ce qui se fait de plus en plus. On va aujourd'hui dans les villes construire des jardins collectifs ou ce qu'ils appellent, ou dans lequel chacun pourra puiser des tomates, des carottes, etc. Et on, ou prendre son temps pour cultiver la terre, travailler la terre, ou simplement être là dans le jardin pour profiter de l'espace, du cadre. Donc là, il me semble qu'on est dans une action qui est politique au sens positif du terme, pas politicienne. Voilà.
Oui, on prend peut-être, oui.
Juste sur la dernière intervention, dans le bassin de Gazville, on essaie de mettre en place des choses. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même beaucoup de passivité chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux personnes qui ont envie, qui ont l'énergie, qui ont des idées. Et qu'on demande qui veut participer, ben on a zéro réponse. Quoi. Il y a vraiment quelque chose dans la société qui est vu dans le système qui fait que les gens sont quand même endormis. Non, d'ailleurs, moi, ici, dans les jeux en question, on se retrouve toujours à peu près les mêmes, etc.
Pas ce soir. Ce soir, on peut dire qu'il y a une... Oui, c'est ça. Presque la moitié des gens qui sont nouveaux dans les jeudis en question.
Yes. Bravo.
Voilà.
Voilà. Deuxièmement, je pense qu'on peut aussi réinventer sa vie tous les jours et résister tous les jours par des choses très petites, même sur le lieu de son travail. On est obligé de dire amen à tout ce qu'on nous dit, tout ce qui nous est imposé. On peut résister, sans non plus se mettre en péril, sans non plus mettre en péril notre job, hein, parce que malheureusement, il faut bien remplir le frigo à un moment donné, payer cette facture. Puisqu'on est dans le système, on n'a pas trop du choix. Mais je pense que de l'intérieur, c'est de l'intérieur qu'on changera les choses. Parce que se mettre en communauté, se mettre à part de la société, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. C'est plus de l'intérieur qu'il faut faire de la résistance et changer nos vies un petit peu tous les jours et trouver du bonheur, même quand c'est un travail chiant. Ben on peut se raconter des blagues entre nous, on peut se donner des conseils. Mais il reste toujours de l'humanité, même dans un boulot chiant, quoi, entre nous.
Voilà. Ouais, pour rebondir sur ta remarque, moi, j'aurais tendance à penser qu'on vit dans un système qui va créer l'urgence pour dominer les hommes. C'est-à-dire, on parlait, il y a un livre justement qui parlait du système Sarkozy ou même du système politicien en général, où sans arrêt on est dans des politiques de très court terme où on nous dit bon, c'est comme ça, on n'a pas le temps, il faut. Les 3%, réduire le déficit, on est dans l'urgence, mais l'urgence, elle a une fonction sociale qui est une fonction de contrôle des populations. Et plus les gens sont dans l'urgence, dans la nécessité, moins ils pourront résister. Le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est que c'est à double tranchant. Il faut lutter contre l'urgence, parce que l'urgence, elle est là aussi pour nous tenir. Et donc, les formes de résistance, voilà, c'est créer des formes de solidarité, de dialogue, d'espace, donc d'humanité, redonner du sens à ce que nous faisons. Donc, ça passe, moi je suis d'accord avec toi, ça passe par des choses très simples du quotidien. Ça, c'est dire bonjour, prendre un café.
C'est laisser aux autres partager,
voilà.
Donner de son temps, des choses.
Donner de son temps.
Voilà. C'est vrai que croiser quelqu'un sur un chemin de campagne, obligatoirement, on se dit bonjour. À la limite, on commence même à parler un peu. Croiser quelqu'un dans la rue, le système urbain, on a tous, il faut y aller, là. On dit même plus
rien pour.
Voilà. Est-ce que vous êtes. Avec d'autres questions, ou bien on en arrête là, parce que je crois quand même que le...
Une dernière, quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand tu as fait ton exposé,